Bonjour à chacun. Alors j'espère que vous allez pour le mieux. On a deux problèmes. Il est 11h. Il est 11h. Habituellement, un message dure entre 35 minutes et pour les plus bavards, une heure. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux chapitres de Néhémie à partager avec vous. Habituellement, il y en a un, je vous laisse faire le calcul. Non. Plus sérieusement, le deuxième vrai problème, je ne sais pas si vous vous souvenez, jeudi dernier, on ne pouvait pas, on avait muraille. Alors, ce n'est pas de moi, hein. Jean-Jacques a répété ça plusieurs fois dans son message. La semaine dernière. Et d'ailleurs, on a vécu un moment béni de prière, de communion fraternelle. On a pu ouvrir la parole, on a pu prier ensemble, on a pu vivre la communion fraternelle. Et c'était un moment béni, nécessaire, indispensable à la vie de l'Église. Et puis, on vient d'avoir des témoignages magnifiques de l'ouverture de l'Église sur le monde. Et nous, on construit une muraille. Et en plus, si vous vous rappelez du texte de Néhémie, pourquoi faire une muraille de protection s'il y a des portes? Il y a des portes. Pourquoi se préserver des distractions, de la diffamation et des abus spirituels, les trois pièges, dangers auxquels Néhémie avait été soumis lors de la construction de la muraille, si nous vivons soumis aux règles d'un monde qui ignore et rejette ce qui est agréable à Dieu? En fait, c'est parce que la mission du peuple de Dieu, je vous relis en Genèse 12, les versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Ça, c'était la mission du peuple de Dieu. La mission du peuple de Dieu aujourd'hui, vous la connaissez? Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous pouvez trouver ça dans le livre des Actes. Au chapitre 1 et au verset 8. La mission de l'Église, annoncer la bonne nouvelle. La mission du peuple d'Israël, être une bénédiction pour tous les peuples. Comment remplir cette mission si le peuple est enfermé dans une muraille? Ou comment l'Église peut-elle annoncer l'Évangile si elle reste renfermée sur elle-même? Tout en se protégeant des distractions, de la diffamation, de l'abus spirituel, souligné par Jean-Jacques, notre texte, aujourd'hui, alors certes un peu long, je suis désolé, nous décrit comment Néhémie a engagé le peuple à se prémunir de ces trois pièges. Et l'Église aussi, par rapport à ce que Jean-Jacques nous dit, mais en même temps à rester ouvert sur l'extérieur. Et on aimerait voir trois points. Face aux distractions, ou autrement dit face à la façon de vivre selon le monde, Christ construit une Église bien coordonnée et unie. Face à la diffamation, reconnaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Et face aux abus spirituels, écoutons la parole de Dieu, vivons la communion fraternelle, louons Dieu et prions ensemble. Avant de lire le texte, j'aimerais qu'on puisse remettre ce moment entre les mains de Dieu. Prions. Seigneur, nous te louons pour ta présence dans nos vies. Seigneur, nous te louons de nous avoir donné cette assemblée. Nous te louons de pouvoir nous réunir dimanche après dimanche, librement. Et Seigneur, nous voulons te prier qu'à la lecture de ta parole, Seigneur, nous puissions être interpellés, transformés, Seigneur. On te prie de préparer nos cœurs à ce que tu veux nous dire, Seigneur. On veut te prier aussi que tout ce qui pourrait être dit qui n'est pas de ta part, Seigneur, puisse être oublié. Seigneur, on veut t'apporter aussi nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se joindre à nous, que tu leur donnes aussi un moment privilégié de louanges, d'adoration et aussi d'écoute de ta parole. Amen. Alors, il y a deux chapitres, je vous disais, donc, et il y a un très long morceau de dénombrement ou de recensement. Bon, celui-là, on ne va pas le lire, ça économise une cinquantaine de versets quand même. Je vous lis à partir du premier verset du chapitre 7 de Néhémie. Une fois la muraille reconstruite et les battants des portes posés, alors la muraille est finie et en plus on a fermé les portes, on a établi dans leurs fonctions les portiers, les musiciens et les lévites. J'ai confié l'administration de Jérusalem à mon frère Hanani et à Hanania, le chef de la citadelle. C'était en effet un homme intègre qui craignait Dieu plus que beaucoup d'autres. Je leur ai dit, ne faites pas ouvrir les portes de Jérusalem tant que le soleil n'aura pas fait sentir sa chaleur, et faites fermer leurs battants en les bloquant alors que les gardes sont encore à leur poste. Instaurez des tours de garde pour les habitants de Jérusalem, que l'un soit à son poste de guet, l'autre devant sa maison. La ville était étendue et grande, mais sa population n'était pas nombreuse et ses maisons pas encore reconstruites. Mon Dieu m'a mis à cœur de rassembler les nobles, les magistrats et les peuples pour les dénombrer. J'ai trouvé le registre généalogique des premiers Israélites revenus de déportation et j'y ai vu écrit ce qui suit. Alors vous pourrez relire chez vous tout le dénombrement, tout le recensement qui suit. Alors je reprends au verset 66. L'assemblée d'Israël tout entière se composait de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 245 musiciens, hommes et femmes. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux, 6720 ânes. Plusieurs des chefs des familles firent des dons pour les travaux. Le gouverneur, 1000 pièces en or, 50 coupes et 530 tuniques destinées aux prêtres. Les chefs de famille, 20 000 pièces en or et 1 320 kilos d'argent. Le reste du peuple, 20 000 pièces en or, 1 200 kilos d'argent et 67 tuniques destinées aux prêtres. Les prêtres et les lévites, les portiers, les musiciens, quelques membres du peuple et les serviteurs du temple, de même que tout Israël, s'installèrent dans leurs villes respectives. À l'aube du septième mois, les Israélites étaient installés dans leurs villes. Alors, je vous propose, je vous avais dit trois points, de continuer la lecture un peu plus tard du texte. J'aimerais qu'on aborde le premier point. Face à la distraction, ce qu'avait appelé la distraction Jean-Jacques, face aux influences négatives peut-être du monde, on pourrait appeler ça comme ça, il y a l'Église. Les portes sont posées, ouf. Le peuple est en sécurité. Mais n'aurait-il pas été plus simple de ne pas mettre de porte? En effet, pas de porte, pas de possibilité pour le danger de pénétrer dans la ville. Mais que se passe-t-il si une ville empêche ou est empêchée de toute entrée ou toute sortie? Il y a plein de films, plein d'histoires là-dessus. En d'autres circonstances, on appelle ça un siège. Et la ville s'épuise et les habitants périssent, faute d'échanges avec l'extérieur. De plus, comment serait-il possible d'être une source de bénédiction pour tous les peuples en étant retranché du monde? De même, prenons garde à ce que l'Église, et en particulier pour nous, notre Assemblée, ne se construise pas une muraille sans porte. Nous risquerions de nous renfermer sur nous-mêmes, à gérer nos petits problèmes internes, à se faire du bien mutuellement, ou du mal d'ailleurs, à améliorer notre fonctionnement, à perfectionner nos équipements, nos formations, nos prédications, en oubliant les perdus, avec le risque de disparaître. Et nous nous éloignerions de la mission que Dieu a donnée à l'Église. Je le répète, proclamer l'Évangile. Alors c'est pourquoi Néhémie, aussitôt les travaux terminés, organise la vie dans l'enceinte de la muraille, avec les portiers, les lévites, les chantres, le gouverneur. Il donne ensuite à chacun la façon de fonctionner et l'ensemble de sa mission, de fonctionner par contre, en ensemble, et la mission particulière, et avec beaucoup d'insistance en ce qui concerne la gestion des portes et de leur ouverture et de leur fermeture. ainsi que le contrôle des entrées et des sorties. Néhémie veut être certain que les portes ne soient pas le moyen pour le peuple ou personne hostile de s'introduire dans la ville, mais qu'elles remplissent leur rôle à la fois de nourrir la ville et d'apporter la bénédiction à l'extérieur. Même si ce point n'est pas forcément évident dans le texte. Et enfin, de protéger le peuple qui est en sécurité derrière cette toute nouvelle muraille. En fait, les distractions desquelles nous devons nous protéger viennent de la façon dont le monde déchu et aussi notre nature pécheresse conçoivent la façon dont nous devons vivre. Comment classer nos priorités? Comment organiser la vie sociale? Comment vivre en famille? Comment élever nos enfants? Et même comment organiser l'Église? La muraille, en fait, qu'est l'Église, doit nous protéger contre ses influences et contre nous-mêmes. C'est pourquoi Christ construit patiemment son Église comme un édifice, une muraille, dont nous sommes les pierres vivantes. Et Paul nous dit dans son épître aux Éphésiens, je vous relis les passages, dans le chapitre 4, les versets 11 à 16. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est un des textes qu'on a pu partager ensemble jeudi soir. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. En fait, Paul affirme ici que l'utilisation des dons différents donnés par grâce à chacun doivent être reconnus par l'Église et mis à son service, en vue d'être protégé de toute influence contraire à la volonté de Dieu. En d'autres termes, une Église unie et bien coordonnée contribue à la protection et à la maturité collective et individuelle du peuple de Dieu. Et c'est ce que Néhémie fait en protégeant le peuple derrière ses murailles. En fait, soyons encouragés, motivés à poursuivre la révélation des dons de chacun et à les mettre en valeur pour le bien individuel et collectif, et en particulier dans les mois qui viennent. Vous savez qu'on essaie de mettre en place nos diacres, et on est encouragé par des textes comme ça à continuer dans cette voie. En fait, l'organisation de l'Église, ce n'est pas un excès de contrôle, une façon rationnelle de gérer nos activités, etc., ou un travers qui empêcherait, par exemple, la spontanéité. Je suis particulièrement repris par rapport à ça. Ou encore quelque chose qui serait là pour limiter l'œuvre de l'Esprit. Mais c'est le moyen que Dieu a choisi pour protéger ses enfants de l'influence du monde. Et cette façon de faire de Néhémie me parle aussi au niveau plus personnel. J'ai longtemps eu du mal, et j'avoue que ce n'est pas encore complètement guéri, avec la discipline. Alors on déteste ça, on déteste ce mot, mais je déteste ce mot. Mais la discipline dans le culte personnel, en avançant, ce que je dis, mais non, mais la discipline, je vais finir par faire les choses de façon automatique, pas par soif de proximité à Dieu, mais juste les faire pour les faire. Et au final, l'absence de discipline conduit à abandonner le culte personnel. Ou en tout cas, à négliger la lecture de la parole, à négliger la prière. Paul a conseillé à Timothée, d'ailleurs, d'être conséquent dans son culte personnel. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'Assemblée, à encourager, à enseigner. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, mets-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, ainsi que ceux qui t'écoutent. Alors, comme vous savez, il y a une question posée à ce sujet-là il y a quelques minutes. Comme vous savez, je suis sans activité professionnelle, pour pas dire... ça fait mieux de dire ça que de dire qu'on est au chômage, en fait, je trouve. Depuis quelques mois, et alors du coup, on pourrait penser que... on a plein de temps libre. Et puis, plein de place pour le culte personnel. Et c'est bien plus facile à intégrer dans les journées bien moins surchargées. En fait, c'est pas vrai du tout. J'ai beaucoup plus de temps, donc finalement, ben on pourra voir un peu plus tard pour le culte personnel, j'ai toute la journée. Et puis, si j'ai loupé aujourd'hui, c'est pas grave. Demain, j'ai toute ma journée. Et en fait, je me rends compte que personnellement, il m'est utile de mettre, entre guillemets, une organisation, une discipline dans ma vie spirituelle. Pour me protéger des tentations, bah de faire quoi ? Autre chose, en fait. Et en fait, au bout du compte, d'être influencé par la vie, par le monde, et d'être distrait. Alors j'ai décidé de commencer mes journées par la lecture de la parole. Alors ça, on l'a entendu des centaines de fois, mais j'ai décidé de faire ça. Et malgré ça, il m'arrive de ne pas le faire. Alors en fait, soyons encouragés à nous astreindre jour après jour, à organiser ou structurer, c'est horrible ces mots, ou structurer, rien que je le dis, moi ça me fait, c'est horrible. Mais soyons encouragés à organiser, structurer nos journées pour donner la première place à Dieu dans toutes nos activités. En fait, Dieu était à l'œuvre dans la reconstruction de Jérusalem, dans la reconstruction du peuple. Pourtant, Néhémie a organisé scrupuleusement la surveillance des portes. Dieu construit son église. Pourtant, il nous demande de l'organiser sérieusement pour la maturité de chacun. Dieu est à l'œuvre dans notre construction personnelle aussi. Pourtant, il nous demande de prendre soin de notre propre enseignement. En fait, la muraille préserve le peuple de Dieu du monde extérieur, hostile et tentant. L'Église protège le peuple de Dieu du monde extérieur, hostile et tentant. Mais attention, le but du peuple de Dieu n'est pas de s'occuper de la muraille. Le but de l'Église n'est pas de s'occuper d'une organisation parfaite. Le but de mes journées n'est pas d'être parfaitement réglé. N'oublions pas la mission première de l'Église, de s'ouvrir vers l'extérieur. Alors, je vous propose qu'on puisse lire la suite du texte. Que je vais essayer de retrouver. Alors, vous avez vu que je n'ai pas ma Bible. Et je me suis rendu compte depuis quelques mois que de lire dans ma Bible depuis l'estrade m'est devenu impossible. Donc, j'ai écrit les textes en gros. Ça m'évite d'enlever et de remettre les lunettes sans arrêt. Alors, on reprend au début du chapitre 8. On organise les murailles, on lit un recensement, et puis maintenant on passe à tout à fait autre chose. Alors tout le peuple s'est rassemblé comme un seul homme sur la place qui fait face à la porte des eaux. Ils ont demandé au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et Esdras, qui était aussi prêtre, a apporté la loi devant l'assemblée. Celle-ci était composée d'hommes et de femmes, de tous ceux qui étaient aptes à la comprendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras a lu dans le livre, depuis le matin jusqu'à la mi-journée, sur la place qui fait face à la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, de ceux qui étaient en âge de comprendre. Le peuple tout entier s'est montré attentif à la lecture du livre de la loi. Le scribe Esdras se tenait debout sur une estrade en bois, fabriquée pour l'occasion. À côté de lui, à sa droite se tenaient Matitia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Maaseja, et à sa gauche, Pédaja, Michaël, Malkija, Hashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras a ouvert le livre de façon visible pour le peuple dans son entier, puisqu'il était surélevé par rapport à lui. Et lorsqu'il a fait ce geste, tout le peuple s'est mis debout. Esdras a béni l'Éternel, le grand Dieu, et tous les membres du peuple ont répondu « Amen, Amen ». En levant les mains, Amen, Amen, en levant les mains. Puis, ils se sont prosternés et ont adoré l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akoub, Shabetia, excusez-moi, c'est difficile à lire, Odija, Maaseja, Kelita, Azaria, Josabad, Anan et Pelaja, qui étaient lévites, expliquaient la loi au peuple. Et celui-ci est resté debout sur place. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Le gouverneur Néhémie, le prêtre et scribe Esdras et les lévites qui donnaient des explications ont dit à l'ensemble du peuple. Ce jour est un jour saint pour l'Éternel, votre Dieu. Ne prenez pas le deuil et ne pleurez pas. En effet, le peuple tout entier pleurait à l'écoute des paroles de la loi. Ils ont ajouté « Allez, mangez un bon repas et boire des liqueurs douces en envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne soyez pas tristes. L'ensemble du peuple est donc allé manger et boire. Envoyez des parts à d'autres et s'adonnez à de grandes réjouissances. Ils avaient en effet compris les paroles qu'on leur avait exposées. Le deuxième jour, les chefs de famille de tout le peuple, ainsi que les prêtres et les lévites, se sont rassemblés auprès du scribe Esdras pour qu'il leur indique le sens des paroles de la loi. Ils ont trouvé écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par l'intermédiaire de Moïse que les Israélites devaient habiter sous des tentes pendant la fête du septième mois et faire entendre un message dans toute leur ville, tout comme à Jérusalem, pour ordonner « Allez chercher à la montagne des branches d'oliviers sauvages, de myrtes, de palmiers et d'arbres touffus, pour faire des cabanes conformément à ce qui est écrit. » Alors le peuple est allé chercher des branches, et ils se sont fait des cabanes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée des Juifs, revenue de la déportation, a fait des cabanes. Et ils y ont habité. Depuis l'époque de Josué, fils de Noun, jusqu'à ce jour-là, les Israélites n'avaient jamais célébré une pareille fête, et il y eut de très grandes réjouissances. On a lu dans le livre de la loi de Dieu, chaque jour, depuis le premier jusqu'au dernier. On a fait la fête pendant 7 jours, et le 8e, il y a eu une assemblée solennelle, conformément à la règle. Alors on va décortiquer tous les versets un à un. Non, évidemment, on va essayer de relever quelques points dans le texte. Et on a parlé, Jean-Jacques avait parlé des trois pains, on a évoqué la distraction, en fait, l'influence du monde sur notre vie, sur l'Église. Et puis, Jean-Jacques avait aussi évoqué la diffamation. Néhémie avait été victime de gens extérieurs à l'Église qui voulait faire passer de fausses informations au sujet de Néhémie. Et en fait, là, je voudrais vous parler de la partie du texte qu'on n'a pas lue. En fait, une fois que cette organisation a été mise en place, Néhémie, il procède au recensement, ou plutôt à un dénombrement du peuple. Alors, on n'a pas lu toute cette liste. Vous pourrez la relire tranquillement à la maison. Mais en fait, il y a plusieurs points intéressants à soulever. En fait, il semble y avoir plusieurs types de personnes qui composent le peuple et qui sont présents lors du dénombrement. Il y a les fils de. Alors, suivant la version, c'est écrit « fils de » ou « descendants de ». Et puis, il y a les gens de ou les ressortissants de. Ça veut dire des gens qui habitaient dans telle ou telle ville ou qui venaient de telle ou telle ville. Et puis, il y a ceux qui ne pouvaient pas prouver leur ascendance. Ils n'avaient pas de documents, ils ne savaient pas dire d'où ils venaient. Et puis le deuxième point, c'est par rapport à ces personnes. Ceux qui ne peuvent prouver leur ascendance sont mis à l'écart du sacerdoce, c'est écrit. En fait, autrement dit, du ministère ou encore du service. Ces gens-là sont mis à l'écart du service. Pourquoi ce dénombrement? En fait, on se rappelle justement que Néhémie avait été victime de diffamation de la part de personnes extérieures, et d'autre part, que tout est en reconstruction, et en particulier le peuple de Dieu. En fait, Néhémie veut être certain que tous ceux qui sont dans l'enceinte de la muraille sont des enfants du peuple de Dieu. Et la période depuis le départ en exil jusqu'à ce jour du dénombrement, elle est en fait environ de 140 ans. Alors on peut imaginer que les liens et la connaissance parfaite entre les Israélites s'est un petit peu distendue. Et ils étaient, vous vous rappelez, on l'a lu, ça je l'ai lu, 42 360 personnes. Vous imaginez bien que Néhémie ne connaissait pas personnellement tous ces gens. Regardez le mal que nous avons à nous connaître correctement les uns les autres. Et on n'est pas 42 360. Loin de là. Et il connaissait bien sûr encore moins tous les ascendants, car ce qui faisait de vous des enfants de Dieu était votre filiation à Abraham. Du coup, pour protéger l'assemblée des mauvaises influences, fausses informations, diffamations de l'extérieur, et avoir une confiance totale envers tous ceux présents dans l'enceinte, tous ceux qui ne purent prouver leur filiation furent écartés du ministère, jusqu'à ce qu'on puisse prouver leur appartenance par une révélation divine. Vous relirez le passage avec l'Ourim et le Thummim. C'était des moyens de consulter la volonté de Dieu. Et en fait, le tort, tout au long de l'histoire du peuple d'Israël, ça a été de se mélanger aux autres peuples. Et finalement, d'être détourné de Dieu pour se tourner vers les idoles. Ou les faux dieux, en tout cas les dieux des autres peuples. En s'assurant de l'origine de tous ceux présents, Néhémie veut à la fois garder l'unité du peuple et en même temps répondre à la volonté de Dieu et ne pas être compromis par les peuples hostiles. Alors lorsqu'on parle du peuple de Dieu aujourd'hui, on parle de qui ? On parle de ceux qui constituent l'Église, ou on parle aussi des fois du corps de Christ, ou on parle des membres de l'Église. Alors attention, je ne parle pas des membres de l'Église locale, hein, du point de vue administratif. Je parle des membres de l'Église de Dieu, même si chaque membre de Dieu devrait être membre de l'Église locale. Donc on parle bien des membres de l'Église de Dieu. Alors nous, est-ce que nous, on doit identifier tous ceux qui sont enfants de Dieu ? Et puis comment ? Et si parmi nous, certains ne connaissent pas Christ, comment devons-nous les traiter ? Alors tout d'abord, il est évident que nous devons nous connaître les uns les autres et vivre la communion fraternelle. Alors, on y est encouragé tout au long du Nouveau Testament. Et même au-delà de ça, c'est par l'amour que nous avons les uns pour les autres, entre parenthèses, c'est moi qui l'écris, les enfants de Dieu, que tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples. Par ailleurs, on est aussi appelé à nous édifier mutuellement, pardon, et en particulier par l'enseignement, et à annoncer l'Évangile à ceux qui ne le connaissent pas. Néhémie n'a pas confié les clés des portes, des murailles, à des étrangers. Et Christ est sans détour quant à l'exposé des choses de Dieu. Je vous relis Matthieu 7, 6. « Gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils piétinent vos perles, et que les chiens ne se retournent contre vous pour vous déchirer. » C'est très dur comme phrase. J'aimerais encore vous citer deux passages, rapidement. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie, venu en homme, est de Dieu. Et Benjamin nous a lu dans Romains 3 un texte équivalent tout à l'heure. Et puis dans Jacques, un deuxième indice. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi. Et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien, les démons aussi le croient. Et ils tremblent. Et on a eu le témoignage tout à l'heure d'un monsieur, je ne sais pas dans quel pays, qui a cité ce passage. Enfin, un passage un peu plus loin qui dit que la foi sans les œuvres est morte. Nul besoin de scruter nos amis. Leur foi est claire dans leur bouche et s'exprime dans leur vie. Ma foi doit être révélée par ce que je confesse et confirmée par ce que je fais ou ce que je vis. Quant à tous nos amis qui ne connaissent pas l'Évangile, protégeons-les et protégeons-nous en ne leur confiant pas des responsabilités, en particulier dans l'enseignement, et accueillons-les avec amour pour leur faire partager notre foi, qu'ils rejoignent le corps de Christ en acceptant Jésus comme leur Sauveur et leur Seigneur. Donc cette muraille, elle rassemble en son sein le peuple de Dieu, et uniquement le peuple de Dieu. L'Église, au même titre, rassemble en son sein le peuple de Dieu. Attention à ce que cette réalité ne devienne pas une muraille qui empêche l'Église de remplir son rôle d'accueil et de témoignage de l'œuvre de Dieu dans les vies. Alors tout le chapitre 8 est long, mais je ne relèverai qu'un dernier point pour nos vies. En face des abus spirituels, il y a la parole de Dieu, la louange et l'adoration. On l'a vécu jeudi soir et on est heureux de le vivre ensemble ce matin. Et une fois le dénombrement effectué, donc, le peuple va se consacrer à plusieurs choses de façon volontaire et guidée par Néhémie et Esdras. Notamment, plus d'autres lévites, on l'a lu tout à l'heure. On voit le peuple qui a soif, vous relirez, qui a soif d'écouter le livre de la loi. C'est lui qui demande à Esdras d'ouvrir le livre de la loi. Et il reste attentif à la lecture tout au long de la matinée. Je me suis mis entre parenthèses, du coup j'ai encore le temps. On n'a pas commencé tôt et puis j'ai encore un peu de temps alors. Tous ceux en âge de comprendre sont présents, petits et grands, et en parallèle de la lecture, tout un groupe d'hommes expliquait au peuple ce qui était lu. Et il y a trois conséquences immédiates à la lecture de la parole. Premièrement, l'adoration. Je vous lis au verset 6. « Et tous les membres du peuple ont répondu « Amen, Amen » en levant les mains, puis ils se sont prosternés et ont adoré l'Éternel, le visage contre terre. » Un deuxième point ou une deuxième conséquence immédiate, la repentance. Le peuple est dans la désolation et dans les larmes. Le peuple prend conscience de son infidélité en face de la fidélité de Dieu. Le peuple prend conscience de son péché. Vous relirez, on le voit, il pleure à la lecture de la parole, il pleure à la lecture du récit de tout ce que le peuple d'Israël a vécu. Et enfin, la joie. Malgré les échecs successifs du peuple, Dieu fait grâce. Il les a libérés de l'exil, a reconstruit le temple, a reconstruit le peuple, a reconstruit les murailles. Ils se reconnaissent et ils sont encouragés à faire la fête. Et puis après ça, le peuple redécouvre, toujours dans la lecture de la Bible, la fête des cabanes. Alors après, il faut aller savoir c'est quoi la fête des cabanes. Et en fait, nous, on a célébré notre fête des cabanes il y a quelques minutes. La célébration de cette fête permettait au peuple de se rappeler de la providence de Dieu quand le peuple était sans ressources dans le désert suite à l'Exode. Et en plus, cette fête des cabanes souligne des temps particuliers, notamment le premier jour et le huitième jour, consacrés à l'adoration de Dieu. Est-ce que ces façons de faire sont à mettre au placard aujourd'hui? C'est-à-dire ce qu'on a vu, la lecture de la parole, la repentance, l'adoration, la fête des cabanes, ou pour nous, la prise de la scène qui nous rappelle l'œuvre de Christ. et tout ce que Dieu a fait pour nous et dans nos vies. Et est-ce que tout ça, c'est à mettre au placard? J'aimerais vous lire dans Acte 2, les versets 42 à 47, et on se rend compte de l'actualité du texte de Néhémie. Dès lors, Acte 2, versets 42 à 47, « Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et prier ensemble. » Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. C'est vraiment très ressemblant à ce qu'a vécu le peuple suite à l'achèvement des murailles. Que font les premiers chrétiens qu'on voit dans Acte 2? Ils écoutent l'enseignement pour connaître Dieu. Ce que faisait le peuple au temps de Néhémie. Il prie pour parler à Dieu, le louer, l'adorer, le questionner. Ils sont dans la joie de voir ce que Dieu fait dans les vies. Ils célèbrent la scène pour se rappeler de tout ce que Dieu a fait, et en particulier le sacrifice de Christ pour leur salut. Ils vivent la communion fraternelle pour s'encourager les uns les autres. Comment ne pas être détourné de la vérité biblique? Eh bien, en vivant ces choses de façon personnelle et de façon collective, tout comme l'ont fait Néhémie et tout le peuple. La proximité avec notre Dieu nous garde des abus spirituels. Au sein de la muraille, le peuple peut célébrer son Dieu. Au sein de l'Église, nous pouvons célébrer notre Dieu. Alors en conclusion, j'aimerais qu'on retienne trois choses peut-être aujourd'hui sur cet épisode du livre de Néhémie. L'organisation de l'Église est nécessaire à la protection des distractions de ce monde, mais ce n'est pas un rempart à notre mission d'ouverture sur le monde. Et prenons garde à ne pas être au service de la muraille, mais que celle-ci soit au service de l'Église. La communion fraternelle est indispensable à la proximité et à la connaissance des chrétiens qui composent l'Église de Dieu, pour avancer les uns avec les autres, en toute confiance. Mais cette proximité ne doit pas devenir un rempart à notre ouverture, à tous ceux qui ont soif de connaître l'Évangile. Et le dernier point, la parole de Dieu, la repentance, la louange et l'adoration en assemblée et personnelle sont une protection contre les abus spirituels. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Seigneur, je veux te demander pardon parce que plutôt que de me réjouir de la construction de l'Église par Christ, Seigneur, je suis tenté d'être critiqueur, je suis tenté de démolir plutôt que de construire. Et Seigneur, on veut te prier que tu puisses nous encourager chacun à notre place, chacun avec les dons dont tu nous as équipés, à participer à la construction de ton Église, Seigneur, à participer à l'avancement de ton règne. Seigneur, je veux aussi te demander pardon, Seigneur, parce que plutôt que d'encourager mes frères et sœurs, souvent je suis acteur de division, peut-être même de diffamation. Seigneur, donne-nous de nous aimer les uns les autres, donne-nous de remplir notre mission par notre vie commune pour que le monde puisse connaître ta gloire, Seigneur. Et Seigneur, merci pour ta parole, merci pour la communion fraternelle, merci pour les moments de prière, merci pour tout ce que tu permets aujourd'hui dans notre pays en toute liberté. Seigneur, nous voulons te prier que nous ayons soif, comme ce peuple, de ta parole, que nous ayons soif de communion fraternelle, que nous ayons soif de prière, de louange, d'adoration, Seigneur, pour que tu nous gardes de tout abus spirituel et de toute déviance. Seigneur, on te loue pour les temps que tu nous donnes à vivre ensemble. Merci pour ce moment privilégié autour de ta parole. Amen. Je n'ai pas pensé à vous dire, mais on a plein d'occasions dans notre assemblée. On est reconnaissant de pouvoir vivre ces temps de louange, d'adoration, de communion fraternelle. Et j'aimerais vous inviter, pour ceux qui ne le font pas encore, à vous joindre à un groupe de maison. C'est vraiment un endroit où on peut vivre ces temps de façon plus intime et où on peut ouvrir la parole, encore une fois, prier, adorer. Voilà, merci.